Show. 10h56, vous êtes dans l'open mic, vous avez les choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Cette émission-là est un fil continu. Ça arrête pas.
Non, ça arrête pas, ça roule.
Ça bouge. Merci beaucoup aux auditeurs qui nous transmettent de l'information ou encore qui nous envoient des commentaires. C'est toujours le fun. Vous êtes de plus en plus, puis ben, quelque part, ça nous rassure. Hein?
Oui.
On se dit qu'on va peut-être être en janvier. Oui, c'est ça. Sylvain Dancause est avec nous. Pourquoi on lui parle? C'est qu'hier, on parlait du manque d'autonomie chez les jeunes puis de la médication qui se donne de plus en plus pour nos jeunes qui sont dans les écoles, des diagnostics de TDAH qui n'en finissent plus. Le Québec est champion là, pour ce qui est des diagnostics de TDAH. Puis dans une étude, il y a des auteurs qui montrent que les enfants qui sont nés fin septembre ont des taux de diagnostic et de médication du TDAH 35 % plus élevés que ceux nés début octobre. Donc, il se passe quelque chose là. Puis on a le goût d'en parler avec Sylvain Dancause, qui est professeur au secondaire. Salut Sylvain!
Bonjour, vous allez bien?
Ouais. Est-ce que c'était une surprise pour toi de voir cette étude-là, de voir que chez les jeunes qui sont nés fin septembre, ils ont des taux de diagnostic? Les enfants nés fin septembre ont des taux de diagnostic et de médication plus élevés?
Bien, c'est une étude intéressante. Il n'y avait pas d'étude québécoise qui existait vraiment sur le sujet. Il y en avait d'autres ailleurs sur la planète, puis on remarquait que c'était peut-être une tendance. Puis il y a des professeurs-chercheurs à l'UQAM qui ont sorti l'étude à l'hiver 2003. Fait que c'est quand même, somme toute, assez récent.
2023,
oui. Donc, il y avait 795 000 enfants québécois qui sont nés entre 1996 et 2005 qui ont été répertoriés. Fait que c'est pas rien, là, quand tu parles de 800 000 jeunes, là, il y a pas... statistiquement, c'est assez significatif. Puis, ce qui a frappé les chercheurs, en fait, le constat le plus frappant, c'est, tu l'as dit, là, c'est que les jeunes qui étaient nés en juillet, en août, en septembre, parce qu'on sait qu'à l'école, bon, c'est au 30 septembre de l'année qu'on est admis à l'école, bien, ces jeunes-là avaient une différence statistique là, significative par rapport au diagnostic de TDAH. Fait qu'on émettait l'hypothèse à ce moment-là qu'il y avait une forte probabilité de surdiagnostic. Et c'était le plus frappant, c'était entre les 6 à 12 ans. Donc, c'est là qu'on voyait que l'écart était le plus grand là, par rapport à ce qu'on appelait des surdiagnostics.
Donc, les jeunes arrivent avec un manque de maturité?
Bien, c'est un peu ça. Tu sais, le TDAH, ça repose beaucoup sur des observations. Puis quand tu fais des observations, bien évidemment, peut-être inconsciemment, tu vas comparer. Puis évidemment, si tu parles du préscolaire ou de la maternelle, tu sais, évidemment, le jeune qui a 5 ans le 15 septembre, puis le jeune qui a eu 5 ans le 12 octobre, là, il y a un an de différence. Là, je parle d'un an de différence. Là. Fait que ce qui fait que le jeune peut arriver, il est plus immature, il est plus bébé. Tu sais, on va les appeler les bébés de classe. Ils sont peut-être plus inattentifs. Il y a peut-être certaines routines ou certaines choses qu'ils ne sont peut-être pas capables encore de faire parce que, comme je dis, le gap en bon français, l'écart entre, tu sais, de presque 12 mois entre ton plus vieux de ta classe et ton plus jeune de la classe, bien, quand tu es plus petit, quand tu as 5, 6, 7, 8 ans, ça peut être significatif comme différence. Puis ça peut peut-être mener à des mauvais diagnostics. Puis, tu sais...
Parce que c'est pas un trouble d'attention à ce moment-là, là. C'est juste un manque de développement au niveau du cerveau, là.
Bien, c'est ça. Puis ça devient difficile de faire la différence entre les deux. C'est pour ça que le diagnostic est important. Puis des fois, ce qu'on se rend compte, et j'écoutais le docteur Amerenger hier, qui est un peu un spécialiste d'une de ces questions-là, puis tu sais, qui posait la question que je trouvais excellente. Est-ce qu'on cherche à médicamenter la réussite scolaire? Puis c'est une question importante, puis on devrait se la poser. Parce que, tu sais, dans les problèmes qui existent, les problèmes scolaires, puis name it, là, peu importe le problème scolaire, le seul que tu peux à peu près régler, si c'est un vrai diagnostic, là, si le diagnostic est précis et fiable, c'est le TDAH. Parce que oui, il existe une pilule, tu sais. Fait que des fois, peut-être que, puis je blâme pas personne, inconsciemment, si ton jeune a de la difficulté X, Y, Z, bien peut-être que l'option de le médicamenter, bien c'est le seul problème pour lequel il en existe une pilule. T'sais, il n'y en a pas d'autres problèmes pour lesquels ça existe. Fait que peut-être qu'on est un peu vite sur le diagnostic de temps en temps. Mais... Puis quand tu vois qu'au Québec, on a beaucoup plus de diagnostics qu'ailleurs, je ne vois pas pourquoi l'eau serait différente ou la qualité de l'air serait différente ici qu'ailleurs. Là,
exact. Mais on se pose la question, est-ce qu'on cherche à médicamenter la réussite scolaire? Juste à l'université, il y a un trafic de pilules qui se fait, Sylvain, là, t'sais. Je sais pas si c'était comme ça dans ton temps, mais encore à ce jour, il y a des gens qui recherchent les pilules, qui n'en ont pas de besoin, qui n'ont pas de diagnostic, mais ils se disent « ben moi, je vais prendre ça le temps d'étudier pour faire mon examen, puis ça va bien aller. » Je trouve ça inquiétant, moi, que ces gens-là utilisent ces pilules-là pour pouvoir avoir des meilleures notes, t'sais. Parce que ça pousse les...
Ouais.
Vas-y, Sylvain.
Non, j'allais dire, j'ai pas de chiffres là-dessus, mais j'aurais tendance à croire, et c'est une hypothèse que je pose, là, que c'est probablement davantage aujourd'hui qu'avant, parce que c'est probablement beaucoup plus facile de se procurer ce type de médicament-là que ça
Ben
l'était.
oui.
Puis, tu sais, évidemment, ça a certains, comme tu viens de le dire, là, ta concentration, tes focus plus longtemps, tu es capable de rester concentré sur une tâche plus longtemps. Fait que ça reste une solution, je dirais, entre guillemets, facile. Puis, bon, dans un monde d'instantanéité, des fois, la solution facile est peut-être plus favorisée qu'avant, là.
Ouais. Les
Mais.
flags viennent souvent des professeurs. Est-ce que vous avez une formation à l'université qui, t'sais, pour essayer de détecter ceux qui ont des petites problématiques peut-être au niveau du TDAH? Parce que les parents qui ont des enfants à TDAH, souvent me disent, Yann, ben, ça vient de l'école, il y a une pression qui vient de l'école, puis il y a un comité qui arrive autour de notre enfant, puis là, ils mettent de la pression sur le parent. Le parent va chercher l'aide
Ouais.
médicale possible, puis là, le parent met quasiment de la pression sur le médecin parce qu'il est tanné de se faire achaler par l'école, parce que son enfant est turbulent. Tu sais, c'est une roue qui tourne, là. Est-ce que les enseignants ont ce type de formation-là?
Ben, peut-être que ça a changé. Je te dirais que personnellement, je l'ai pas cette formation-là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui ont cette formation-là. Oui, on a des formations, tu sais, à l'interne qui sont données. On peut s'inscrire puis en apprendre davantage sur différents troubles, que ce soit la dyslexie, la dysorthographie. Puis oui, on est formé. Mais il reste que mon travail, c'est enseignant. Je ne suis pas psychologue, je ne
Ah,
suis
c'est ça l'affaire.
pas neuropsychologue, je ne suis pas médecin. Tu vois, les gens qui sont habilités à poser ce genre de geste-là, de diagnostic, ou en tout cas d'arriver avec une idée du problème, c'est les psychologues, les neuropsychologues et les médecins. Le seul qui peut prescrire le médicament, c'est le médecin. Est-ce qu'on m'a déjà sollicité pour remplir des rapports? La réponse, c'est oui. Dans ma carrière, j'ai eu à le faire à plusieurs reprises. Je te dirais moins depuis quelques années. Il y a des fois que je l'ai rempli parce que je connaissais bien le jeune, je l'avais depuis plusieurs années. Il y a des fois que j'ai refusé de le remplir parce que quand tu reçois un rapport d'observation le 15 septembre puis que tu connais le jeune depuis 2 semaines, ça me semble tout à fait ridicule de
Ben
remplir
oui.
un rapport d'observation. Puis je disais, ben désolé, je ne peux pas le remplir. Redonnez-moi le rapport dans 6 mois, je vais peut-être pouvoir le remplir de façon intelligente et efficace, mais pas là.
Puis
Mais tu sais, j'écoute.
les rapports
Oui.
d'observation, ils vous sont donnés pour quelles raisons?
Bien, habituellement, c'est une demande qui vient du médecin.
Ah, voilà.
On demande de remplir. Puis là, le médecin, j'imagine, puis là, encore une fois, je fais une hypothèse, que le médecin ramasse des traces de l'école, ramasse des traces de la part des parents, puis en fonction du topo qu'il reçoit, va prendre une décision après ça, quand le portrait est complet, j'ose espérer. Mais ça reste des observations, comme je disais tantôt, des observations. C'est pas un diagnostic de dyslexie qu'on fait, là. C'est un diagnostic de TDAH qui est beaucoup sur le comportement. Fait qu'il reste que, ben, on fait des observations, mais est-ce que c'est toujours super efficace? Peut-être pas. Puis, tu sais, j'écoutais un médecin ou je lisais un médecin récemment en lien avec ça, puis qui disait, ben, une consultation sérieuse faite avec un test neuropsychologique, un test sérieux, ça peut prendre plusieurs heures. Et au privé, ça peut coûter, peut-être que les prix ont changé, mais lui, il parlait d'à peu près 1 000 $. Fait qu'il disait, moi, la plupart des parents qui m'arrivent avec leurs enfants dans mon cabinet n'ont jamais fait ce test neuropsychologique-là parce qu'ils n'avaient pas 1 000 $ à dépenser, n'ont pas consulté des heures et des heures un neuropsychologue pour passer, exemple, le test de neuropsychologie. Fait que ça reste sur une base d'impression. Puis là, il dit, toujours mal à l'aise de prescrire des médicaments à ce moment-là. Moi, je ne le fais pas. Puis est-ce qu'il y a des collègues qui le font? Puis ça, c'est une autre question. Fait que, tu sais, c'est toujours un peu vaseux, là. Puis c'est pas. Puis c'est un dossier hyper polarisant et c'est un dossier qui a amené l'attention d'une commission il y a quelques années, en 2020 ou 2021, je ne me rappelle pas, mais il y a eu un rapport qui avait été déposé parce que les pédiatres avaient déjà sonné l'alerte il y a, je pense, avant la COVID, donc 2018-2019. Il y a eu la commission spéciale là-dessus, puis il y a eu la COVID au travers de ça. Puis on dirait que c'est comme laisser un peu. C'est resté, excusez, lettre morte. Fait que c'est comme, ben, qu'est-ce qui se passe là? Puis comme on n'a pas avancé beaucoup sur ce dossier-là depuis ce temps-là.
Ce que je trouve triste, c'est que tu as des enfants qui se ramassent médicamentés, qui en ont pas besoin, puis c'est seulement pour avoir des meilleures notes. Tu as des parents qui sont malheureusement complices un peu de ça aussi, parce que vient avec la diagnostic le fait d'avoir du temps supplémentaire pour tes examens. Moi, j'en ai eu, là. Puis tu sais, tu as des parents qui sont pour ça, malheureusement. J'ai l'impression aussi que leur enfant a un peu plus de temps dans les examens, question de pouvoir atteindre des meilleurs scores.
Bien, ça, c'est d'autres choses dans le sens où nous, on a ce qu'on appelle dans le jargon là, un plan d'intervention. Fait que ça, c'est un cadre légal et l'école doit fournir les moyens qui sont disponibles, qui sont dans le plan d'intervention. Puis oui, il y a un des outils qui est souvent dans le plan d'intervention parce qu'il ne coûte pas cher, c'est d'octroyer le tiers du temps supplémentaire lors d'un examen à un enfant. Mais tu sais, je veux juste faire une parenthèse dans le sens où tu vas parler à certains parents puis ils vont te dire que la médication a changé leur vie et a changé la vie de leurs enfants. Fait que tu sais, il ne faut pas diaboliser la médication, mais il faut se poser des questions sur le surdiagnostic. Est-ce qu'il y a des enfants qui en ont besoin, que c'est important pour eux? Est-ce que ça a changé leur vie? La réponse, c'est oui, et j'en vois. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ne devraient pas prendre le médicament? La réponse, c'est oui aussi. Fait que c'est d'être plus vigilant, puis peut-être d'être plus informé, puis de faire les choses comme il faut. Puis, tu sais, on parle beaucoup des écrans, ça a été parlé hier, mais, tu sais, après la pilule, là, mettons qu'on dit que la pilule est efficace pour une certaine tranche de la population, c'est l'activité physique qui est le médicament le plus important pour un TDAH, donc de faire de l'activité physique. Fait que dans un moment où il y a plus de sédentarité chez nos jeunes, puis c'est documenté, bien peut-être que le manque d'activité physique vient nuire aussi. Mm.
Puis tu sais, ce qui est embêtant, Sylvain, c'est que c'est prescrit par des médecins.
Ouais, c'était peur. Hein?
Tu t'attends à ce que le médecin fasse une job A1 avec ton enfant, puis finalement, tu regardes les statistiques au Canada, c'est le Québec où on donne le plus de médicaments pour le TDAH à nos enfants. Là, il y en a qui vont dire, je pense que c'est docteur Annick, je perds son nom, mais c'est une spécialiste du TDAH. Elle dit, c'est peut-être parce que nous, on est meilleur que le reste du Canada pour détecter ce à quoi j'adhère moins. C'est un médecin qui fait la prescription, là, qui dit oui, monsieur, madame, votre
Annick
enfant.
Vincent.
Annick Vincent, voilà. Votre enfant est atteint du TDAH, on peut lui donner des médicaments. C'est parce que s'il y a des erreurs de diagnostic, pourquoi on a autant d'erreurs de diagnostic ici au Québec, Sylvain? C'est parce qu'il y a une pression du milieu?
Bien, il y a plusieurs éléments. Moi, je pense qu'il y a plusieurs covariables. C'est multifactoriel. Peut-être qu'il y a une pression du milieu. Tu sais, c'est sûr que quand une équipe école, plusieurs enseignants ou un enseignant ou un psychologue à école ou peu importe le corps d'emploi qui met de la pression sur le parent, puis que le jeune a de la difficulté à l'école, tu sais, c'est sûr que cette pression-là, généralement, n'arrive pas quand le jeune a 80-85% de moyenne.
Ouais.
Habituellement, il y a des difficultés scolaires. Puis là, ben, si on dit, ben, vous savez, votre jeune, il est un peu plus excité que les autres, il bouge beaucoup, il a de la difficulté à se concentrer sur sa tâche, il manque de maturité. Puis là, ben, tu sais, t'amènes des éléments, puis le jeune a, je sais pas, 50-55% de moyenne, c'est sûr que comme parent, tu vas être attentif, puis tu vas dire, OK, mon enfant, c'est peut-être pour ça qu'il est en échec. C'est peut-être pas à cause de la raison B, C, D, E qui est en échec, c'est peut-être à cause de la raison TDAH. Puis, ben, c'est sûr que ça peut être tentant d'y croire parce que tu dis, ben, peut-être que la petite pilule qui est si facile à me procurer, elle va régler le problème de mon enfant, puis il va être en réussite. Mais c'est peut-être pas ça le problème. Il est peut-être dyslexique, il est peut-être dysorthographique, il a peut-être un trouble d'apprentissage quelconque qui n'a pas encore été diagnostiqué, puis c'est pas facile. Les enfants sont jeunes, ils ont 5, 6, 7 ans, sont en construction. C'est un retard normal, c'est un retard anormal. Puis là, ben, on manque de professionnels dans le milieu. Donc, si tu n'as pas les moyens d'aller au privé pour avoir un diagnostic au privé, ben, tu vas attendre peut-être longtemps au public, là, parce qu'on les corps d'emploi dans lesquels il manque de plus de monde actuellement au secondaire et au primaire, c'est des professionnels. Mmh. Fait que c'est sûr qu'on est comme pris aussi, puis je comprends les parents des fois d'y aller parce que tu te fies aux gens. Tu sais, je veux dire, toi, ben, tu dis que je veux le meilleur pour mon enfant, puis on semble me dire que c'est ça le meilleur.
Ben, c'est parce que tu peux pas te substituer à l'avis du médecin. Le médecin, il y a des connaissances que toi t'as, que moi, j'ai pas. Tu sais. Fait que si le médecin me dit c'est ça le problème de votre enfant, avec un médicament, ça devrait régler son problème, il va être plus heureux, il va avoir des meilleures notes. T'sais, tu te poses plus de questions à ce moment-là. Il y a les études pour te dire ça. T'sais.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je serais le premier avec mes enfants. Là, si on m'avait donné ce diagnostic-là, je me serais posé des questions. Puis même si je suis enseignant puis j'en vois, je me serais posé la question. Il est tout donc, c'est vrai. Il est... Puis c'est questionnant comme parent. Mais tu sais, des fois, des billets, moi j'en ai vu des billets de médecins pour des prescriptions d'octroyer un tiers de temps supplémentaire à un enfant. Là. Fait qu'il y avait une prescription du médecin qui disait « cet enfant-là a besoin de plus de temps pour faire ses examens ». Des fois, j'étais d'accord, mais je peux te dire que des fois, je n'étais pas d'accord non plus. Donc, ça reste une question aussi de jugement professionnel. Puis évidemment, bon, on pourrait en parler longtemps, mais c'est toujours pas clair pour moi. Puis tu sais, on se pose des questions, là, vous autres puis moi aujourd'hui, puis on n'a pas toutes les réponses. Puis j'ai l'impression qu'il faudrait gratter un peu plus pour avoir des réponses plus claires.
Oui. Alors, je veux revenir un peu sur la question de maturité. Tu sais, moi, Sylvain, tu le sais, j'ai pas encore d'enfant, ça va venir.
T'es pas encore mature non plus.
Si... c'est un autre point. Si, mettons, mon jeune, justement, là, est fin septembre, là, est-ce que j'ai le choix toi, comme parent, de l'envoyer plus tard à l'école, de le garder une année de plus en garderie, puis de l'envoyer, mais qu'il ait le même niveau de développement que les autres élèves? Ça peut être comme une solution?
Ça serait une excellente solution. Il y a plusieurs parents, je pense, qui pourraient se sentir interpellés par cette situation-là en disant « ben moi, je regarde mon enfant, je regarde ce qu'il est capable de faire au niveau motricité, je regarde son niveau de maturité, je compare avec les autres. » Ça n'a pas de bon sens qu'il rentre en maternelle cette année. Mmh. Il me semble qu'il n'est pas prêt. Il me semble que. Puis tu vois que le jeune, il est né, par exemple, le 20 septembre. Donc, ça va être le plus jeune de son année, de sa cohorte. Ça va être un bébé de la classe. Mais je te dirais qu'on est extrêmement rigide dans le système scolaire sur ce genre de demande-là. Obtenir une dérogation, c'est presque mission impossible pour un parent. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait rediscuter et rejaser. Est-ce que les parents pourraient avoir un peu plus de l'attitude dans le choix pour des jeunes qui sont nés, par exemple, en août ou en septembre, de dire « ben moi, comme parent, je pense que mon jeune n'est pas prêt, je pense qu'une année supplémentaire, ça lui ferait du bien en CPE ou à la maison, peu importe, mais je ne pense pas qu'il est prêt à rentrer à l'école. » Mais présentement, le système scolaire n'accepte pas ça, ou à peu près pas. Là, ça prend un parcours du combattant si tu veux réussir à avoir une dérogation. Puis c'est la même chose si ton enfant est en avance. Hein. Tu peux avoir un enfant qui est très mature, qui est en avance, qui est né au mois de novembre, par exemple. Bon, j'en connais un en particulier qui a passé une année, mais c'est assez rare aussi qu'on accepte l'inverse, là, qu'un jeune passe une année parce qu'il est vraiment en avance sur les autres.
Oui, parce que le phénomène...
Donc, c'est des cas rares.
Le phénomène s'inverse aussi. Tu sais, on parle du manque de maturité pour les jeunes jusqu'à fin septembre, mais par expérience personnelle, là, pour en avoir vu. Puis même moi, je suis une jeune de décembre, une année de plus. Mon chum est dans cette situation-là aussi. Puis plus jeune, souvent, on avait beaucoup plus de facilité au primaire, à l'école, parce que j'imagine, encore une fois, que le cerveau est plus développé que la moyenne de ta classe. Mais je trouve que si c'est juste une question de retard d'année, ça devrait être ajusté. Il me semble que c'est la base. Puis ça éviterait tous ces faux diagnostics-là.
C'est une bonne hypothèse. Je vais vous laisser en débattre, mais moi, je pense que des fois, on est un peu rigide dans le système scolaire pour différents sujets. Là, on parle de celui-là, mais on pourra en parler de plein d'autres. Là. Je pense que c'est pas... Il y aurait peut-être des choses à voir. On a parlé là, des médecins, on a parlé des diagnostics, on a parlé des observations, on a parlé des enseignants, on a parlé du personnel de l'école, on a parlé des parents... Je pense qu'il y a un peu de ménage à faire, puis il y a de l'ouvrage à faire. Là. La commission est restée un peu sur notre appétit là, il y a quelques années de ça, puis il n'y a pas vraiment eu de suivi encore concluant sur ce dossier important.
Sylvain Dancause, ça a été un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui.
Merci beaucoup, plaisir partagé.
Merci.
À bientôt, bye-bye. Salut.
L'excellent Sylvain Dancause, professeur au secondaire, on jasait de TDAH avec lui. On parlait hier du manque d'autonomie chez les jeunes, puis de la médication qui se donne de plus en plus jeunes. Pour des diagnostics de TDAH. Puis il y a une étude qui a été rendue publique où on raconte que les enfants qui sont nés avant la fin de septembre ont des taux de diagnostic et de médication du TDAH 35 % plus élevés que ceux qui sont nés au début octobre. Donc, ceci pourrait peut-être expliquer cela. Si ton enfant n'est pas encore assez mature pour arriver en classe avec les autres élèves qui, eux, ont pratiquement un an de plus que toi, ben, c'est normal que ton enfant soit peut-être un peu plus turbulent, qu'il soit peut-être pas au même niveau que les autres.
Je ne suis pas anti-pilule complètement. Je veux dire, je comprends qu'il y a des médicaments qui ont lieu d'être pour mille et une raisons. Puis je ne suis pas contre ça, mais les médicaments contre le trouble de l'attention, là, pis ça a des effets secondaires. Puis j'ai comme de la misère à concevoir que ton enfant jeune se ramasse à prendre cette pilule-là qui est forte, qui enlève l'appétit, qui ça a mille et un effets secondaires. Puis je veux dire, là, il faut que tu trouves le bon médicament puis la bonne dose. Puis c'est tout qu'un processus à faire vivre un enfant. C'est le seul problème, c'est qu'il est un an en retard.
Ouais. Moi, j'ai vécu les deux. T'sais, j'ai vécu le moment où on pouvait donner des médicaments pour que les enfants turbulents puissent bien se contrôler en classe, puis bien apprendre, puis avoir de bonnes notes. Puis j'ai vécu l'époque des petits tannants, qui étaient en classe, qui étaient plus turbulents, avaient plus de problèmes avec le directeur, qui se faisaient sortir plus souvent des cours.
C'est des enfants.
Oui, je sais, mais moi, maintenant, avec du recul, je peux te dire que c'était possible de vivre avant, même sans médicaments pour
absolument.
Les enfants.
Absolument!
Fait que... Puis je veux pas être trop cruel, parce qu'il y a des parents que c'était leur seule solution d'avoir des médicaments pour leur enfant, puis leur enfant fonctionne bien à l'école. Fait que eux ils se disent « Ouais, mais attends un peu, est-ce que vous nous jugez? » Pas du tout. Ce qu'on dit, puis c'est les statistiques qui le prouvent, c'est que parfois, il y a des jeunes enfants qui arrivent à l'école sont pas encore assez matures, mais ils sont avec des gens qui sont plus matures, puis on les compare, puis on comprend pas pourquoi ils sont plus surexcités que les autres. C'est juste qu'ils ont pratiquement un an de moins que les autres qui sont en classe.
Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est rendu une mode, avoir un TDA. C'est carrément une mode. C'est même une expression dans les cours d'école. « Ah, excuse, c'est mon TDA », en voulant dire comme « Ah, j'étais pas focus, j'étais pas concentré ». Puis c'est ça que je trouve tannant parce que ça banalise aussi le diagnostic de gens qui réellement ont besoin de ce médicament-là qui a des bons côtés. Là, ça reconnecte ça reconnecte certaines sphères du cerveau qui fonctionnent pas nécessairement bien. Là. C'est super utile, c'est juste que c'est pas utile pour tout le monde. C'est fait ça. Qu'on dirait que je trouve ça plate qu'on banalise ce diagnostic-là. Puis je suis pas contre ça. Dans ma famille, on est une couple qui a ce trouble-là puis qui ont pris des médicaments. Puis j'ai aucun problème avec ça. C'est juste qu'il faut le faire pour les bonnes raisons comme n'importe quelle autre maladie. Là.
Je regarde les commentaires. Bonjour, j'ai un fils de 9 ans qui rentre vraiment pas dans le cadre de ce que l'école demande. Les enseignants nous disent d'aller voir un neuropsychologue. La neuro l'a vu une demi-matinée et elle a voulu le mettre sous médicament. Sous la concentration, on a refusé. Les enseignants nous ont dit qu'en tant que parent, on lui tire une balle dans le pied et qu'il ne fera jamais rien de sa vie. C'est quand même particulier.
Ça, c'est assez...
Mais c'est ça, Audrey. Tu sais, des années 60, 70, 80, on n'avait pas ces médicaments-là. Fait que les jeunes devaient trouver d'autres solutions, d'autres stratégies, devaient être, est-ce que je vais utiliser le mot, là, domptés. Fait qu'en classe, tu dois bien te comporter. Puis si tu n'as pas les notes nécessaires, tu vas doubler, tu vas te ramasser avec des plus jeunes. Puis c'était des copies, puis c'était d'aller voir le directeur parce que tu n'avais pas un bon comportement. Mais on a tous passé au travers pour la plupart, là.
Ça, c'est sûr. Mais tu sais, je trouve qu'il y a une ironie aussi. C'est pas fait pour tout le monde être prof, définitivement. Là. Moi, dire à un élève ou présenter à un parent que son enfant fera jamais rien de sa vie, j'ai bien de la misère avec ça. Là. Ton métier, celui que tu as choisi, c'est d'enseigner, c'est d'aider au développement d'un enfant. Fait que c'est pas vrai qu'un enfant fera rien de sa vie parce qu'il y a un peu plus de difficultés, mais ça nous mène aussi au fait qu'on manque de monde.
Pascal nous écrit « La tante à ma blonde qui est prof a le discours du « oui, mais ça leur fait du bien. Elle veut juste avoir la paix dans sa classe, la vieille blasée. Mais quand tu as des profs qui ont ce discours-là, ça aide pas, je parle par expérience. » C'est des commentaires qu'on reçoit. Quand j'étais plus jeune, ma mère m'a dit que j'étais plein d'énergie, alors elle m'a inscrit en sport pour dépenser l'énergie et ça a beaucoup aidé.
Ben, je sais pas.
Mais c'est, parfois, c'est pas la solution à tout.
Non, ça, c'est sûr, là. Mais il y a d'autres façons de faire. On n'avait pas besoin de tout ça avant. Fait que des fois, je me pose juste la question de pourquoi on va toujours vers la facilité. Mais ouais. Ça, c'est moi qui est arriéré un peu, là.
Ah, ça, oui.
Non, mais je veux dire, dans le sens que j'ai de la misère à... J'ai de la misère avec le fait qu'on a une réponse à tout le temps.
Ouais. Pas juste à l'école. On travaille généralement avec des gens qui nous parlent de leur TDAH non diagnostiqué. Ouais, c'est vrai qu'on en entend souvent parler.
Mais oui, c'est vrai.
Christian qui dit la nouvelle mode, c'est de la neurodivergence.
Puis Christian a tellement raison, les fameux HPI. Puis ça vaudrait la peine de faire une entrevue avec quelqu'un qui a réellement ce trouble-là. Et ça donne des réponses à mille et une questions que ces gens-là se posent depuis toujours parce qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Il y a un certain décalage au niveau du cerveau. C'est super intéressant, mais effectivement que c'est la nouvelle mode. Puis ça, c'est... Je ne veux pas dire à cause ou grâce à, mais ça se promène beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu as une influenceuse en ce moment qui s'appelle Lisanne Nadeau, qui est une des premières YouTubers au Québec qui a vraiment réussi dans ce domaine-là, si on peut l'appeler ainsi, là, qui est neurodivergente, qui a un HPI. Puis elle, tu vois...
C'est haut potentiel intellectuel.
Elle a les deux à ce moment-là. En tout cas, elle parle de ces deux phénomènes-là. Puis elle s'est fait diagnostiquer, puis ça a été des longs processus avec beaucoup d'argent impliqué. Puis là, en tout cas, elle parle tout le temps de ça sur ses plateformes. Mm-hmm. Mais tu comprends que les jeunes qui consomme du Instagram, du TikTok, on s'auto-diagnostique, on est niaiseux de même. On fait ça avec Dr. Google quand on a mal aux pieds.
On parle de manque de maturité, là. Ben de, oui. de se classer comme ça, comme à part des autres. C'est en vieillissant qu'on s'aperçoit qu'on vit à peu près toute la même chose que tout le monde.
On n'est pas spécial.
À peu près comme tout le monde, pas spécial. Quand tu manques de maturité, quand tu es jeune, puis là, je fais pas le cas de Lisanne Nadeau, là, ça me tente pas d'embarquer sur son cas, je suis pas psychiatre, là, mais il y a des gens qui aiment tellement ça, se sentir différent, qui vont mettre l'accent sur ces affaires-là. « Ah, moi, je suis neurodivergent. Ah, moi, je ne suis pas diagnostiqué, mais je le sais, je suis TDAH. » Comme pour se sortir un peu de la normalité dans laquelle nous, on est en majorité.
Bien, peut-être. Il y a sûrement certaines personnes que c'est ça. Par contre, je crois beaucoup au fait que, comme humain, on cherche des réponses constamment. On cherche à s'identifier à des groupes, à des façons de penser. Si tu te sens d'une certaine façon, tu cherches à comprendre d'où vient ce sentiment-là. Fait que ça, je pense que c'est un phénomène qui est est complètement normal. Puis de là vient le fait de s'auto-diagnostiquer sur les réseaux sociaux, sur les Google de ce monde. Là.
Est-ce que tu m'as mégendré? Parce que là, moi, je pense que je ne suis pas un homme ni une femme.
OK.
Fait que moi, je ne suis rien.
OK.
Non. Dis rien. Moi, je suis différent.
Je suis pas comme toi. Là, attends. Là, Yann, t'es dans la... Attends.
Moi, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas une femme.
Là, tu mélanges les sauces.
T'as pas le droit de me dire le contraire, puis je pense que...
T'es dans mauvaise foi, Yann. Là, t'es dans la mauvaise foi. Il y a de ces gens-là, mais ils sont pas tous de même.
Moi, je me sens différent.
Tu mélanges.
Je suis pas comme toi. Toi, t'as un genre. Non, moi, j'en ai pas.
Franchement.
Hey, j'en ai pas.
Là, tu mélanges la merde.
Non, j'en fais. Salut, à demain.
Hey, bye.
On t'écoute dans le retour avec Denis.
Salut.
C'était l'Open Mic, Caravane, Maxime sur Boulevard.